J'ai revu totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai été convaincue au baccalauréat. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, c'est-à-dire de effectivement trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. Le 16 juin de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de l'enfant africain. C'est l'occasion pour les États et les gouvernements africains d'évaluer la situation de l'enfant en Afrique qui fait face à plusieurs défis de développement. En RDC, certains observateurs estiment que c'est l'occasion d'évaluer le degré d'applicabilité des différents instruments juridiques de protection de l'enfant à travers le pays. Selon vous, quelle est la situation de l'enfant congolais chez vous? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis en ordre par Jean-Noël Mokondo, Julie Feza Bongondo et Bongonda est au standard. J.R. Ngembo est à la réalisation et coordination et Pierrot et la Méjalériel de vous présenter ce magazine sous la supervision de Martin Sabujangwe fidèle. Auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiotapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et Amélie.
Dès la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, leur applicabilité par les États africains, ainsi que tous les autres textes juridiques comme la Charte de l'enfant sur les droits de l'enfant africain, mais la loi aussi protection de l'enfant en RDC, tous ces instruments juridiques mis à la disposition des États, de la communauté, pour arriver à améliorer la situation de l'enfant, c'est au centre de notre échange en marge de la célébration, c'est 16 juin. De cette journée internationale de l'enfant africain, la situation de l'enfant au centre de notre échange. Le débat est très animé sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, mais aussi en FM pour vous qui nous appelez au 081-890-6315. Nous avons John Kamangou qui dit ceci: l'enfance étant le futur de l'humanité, elle devrait jouir d'une protection spéciale face à toute forme de menace pouvant compromettre sérieusement la santé physique et morale ou affecter le sens des jugements et des responsabilités envers la société. Il s'agit bien sûr de l'enfant. C'est en vertu de cet idéal que le gouvernement congolais, par son pouvoir coercitif, doit mener un certain nombre d'activités visant à promouvoir un environnement d'émergence des valeurs et des talents de l'enfant congolais afin qu'il grandisse en personne éclairée pour un monde moins obscur. Marcel Passois, il est à Luisa dans le Kasaï central. Il dit, il y a un cas frappant vis-à-vis de l'enfant ici, c'est le cas des enfants qui sont abandonnés. Et c'est pour cela qu'on va aussi la voir d'un moment à l'autre en ligne. Mais en attendant, nous avons des Kinshasa à mettre bienvenue Moké. Vous êtes le président de l'association pour la promotion de la défense des droits de l'enfant et de la famille, APDEF en sigle, et puis vous êtes aussi un doctorant en droit à l'université de Kinshasa. Vous vous intéressez à la question de l'enfant, maître bienvenue Moké, et particulièrement la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant par les États africains. Et quand vous regardez la manière dont tout cela se déroule dans notre pays, quant à l'application des instruments juridiques sur la protection de l'enfant, à quel niveau sommes-nous aujourd'hui, maître bienvenue? Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Évidemment, ce que vous avez dit est une question très capitale par rapport à la survie même de l'enfant, parce que le droit de l'enfant ne peut être évoqué si nous ne pensons pas premièrement aux instruments qui consacrent ces droits-là. Alors à ce niveau-là, nous sommes en train de dire qu'il y a un sérieux problème déjà au niveau de la connaissance de ces instruments. Il y a tout à l'heure, nous sommes en train dans une activité de parler sur la connaissance des instruments, entre autres la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989, et notre propre loi portant protection de l'enfant du 10 janvier 2009. Vous savez que dans les sondages que nous avions réalisés, moins de 20% de la population que nous avons contactée connaît l'existence de ces textes de loi. Et là, nous ne pouvons même pas parler de la mise en œuvre, nous ne pouvons même pas parler de l'application, parce que même les bénéficiaires de ces textes de loi sont ignorants de l'existence de ces textes de loi. Bon, n'en venons pas d'abord là, parlons de l'État congolais qui a ratifié ces instruments internationaux de protection des droits de l'enfant. Il y a un sérieux problème par rapport à la mise en œuvre sur les rapports que l'État congolais doit évidemment envoyer au comité de l'enfant par rapport à la mise en œuvre de la convention ici en RDC. Nous avons constaté que le premier rapport qui devait être envoyé en 1992 a été envoyé en 1997, soit 5 ans de retard. Le deuxième rapport qui devait être envoyé en 1997 a été envoyé en 2007, soit 10 ans de retard. Et il vient d'être envoyé les trois rapports, et que le troisième, le quatrième et le cinquième rapport en 2012, qui n'a même pas encore été débattu aujourd'hui. Et tout ça passe inaperçu du grand public. Or, la Convention oblige l'État à sensibiliser. Quand il y a un processus dans ce sens, l'État a le devoir de faire une large diffusion, tant par rapport au rapport, tant par rapport à l'examen et aux observations finales du comité des droits de l'enfant. Il y a un problème sérieux parce que même les praticiens de droit ne connaissent pas ces échelons-là. Nous nous posons la question de savoir est-ce le droit de l'enfant aujourd'hui est encore à l'étape de félicitations, parce que la journée du 16 juin, souvent, on se passe dans des félicitations. Nous félicitons l'État congolais d'avoir ratifié tel ou tel autre instrument international. C'est une bonne chose. Mais la ratification, comme pour la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, c'est depuis 1990 que la RDC a ratifié cette convention. Donc l'état de félicitations, le temps de félicitations est passé, c'est le temps de la mise en œuvre. Et la mise en œuvre commence par la vulgarisation. Il y a un problème sérieux par rapport à la vulgarisation, un problème sérieux de connaissance de ces textes de loi et de quoi. Nous ne condamnons pas à 100% l'État congolais. Il y a même nous qui sommes ONG, qui œuvrons dans le domaine, dans le secteur de l'enfant. Vous allez voir, chez le journaliste et chez l'auditeur, que la majeure partie des ONG qui œuvrent dans le domaine de l'enfant ne font que l'assistance aux enfants. C'est une bonne chose, nous ne condamnons pas. Mais il y a un problème sérieux par rapport à la vulgarisation et au monitoring de violation des droits de l'enfant. Ce problème se pose dans le sens où ces enfants sont aujourd'hui assistés parce qu'ils sont victimes des droits de l'enfant. Mais il faut aller à la source pour couper cette source-là, de sorte que les personnes puissent comprendre que c'est le droit de l'enfant et que nous puissions plus assister à beaucoup de violations des droits de l'enfant telles que nous l'assistons aujourd'hui.
Mais très bienvenue. Mais là, il y a une préoccupation. Quand on regarde les fossés entre la ratification ou même la promulgation de la loi portant protection de l'enfant à RDC, la ratification des instruments juridiques internationaux, ainsi que la pratique sur terrain dans l'amélioration de la situation de l'enfant. Est-ce qu'on peut dire que le problème, il est d'abord au niveau de la conception politique de ce que nous voulons faire de l'enfant congolais aujourd'hui?
Oui, nous pensons que le problème est aussi dans la conception politique, parce que vous savez, il y a ce que nous sommes en train de dire. Si vous n'êtes pas un habitué de terrain, vous allez être amadoué par de bons discours, par beaucoup de éloges qui est dit autour de l'évolution des droits de l'enfant en RDC. Mais quand vous allez sur terrain, vous constatez que ce qui est dit, ce qui est prévu dans les textes de loi et ce qui est vécu, il y a un écart considérable. Alors on s'est dit, soit c'est une mauvaise volonté politique, soit c'est une soustraction à l'avance de ses responsabilités. Bon, nous pensons que l'ère est au rassemblement des efforts pour effectivement donner à l'enfant sa place en RDC. Et puis, nous devons le reconnaître aussi et qu'il y a un problème sérieux par rapport à la vulgarisation des droits de l'enfant. Puisque la majeure partie des vulgarisateurs des droits de l'enfant ne présentent pas les droits de l'enfant tels que cela devait être présenté. Je vais peut-être prendre une seconde pour vous donner un exemple.
Allez-y.
Vous parlez aux droits de l'enfant à un parent en RDC, il vous dit, ici nous sommes en Afrique, nous ne connaissons pas ces histoires, c'est entêter les enfants. Pendant que il a raison, parce que celui qui a parlé du droit de l'enfant lui avait dit, l'enfant doit manger trois fois pendant que lui n'a que 1 000 francs les jours. Il faut lui parler premièrement du besoin de l'enfant. Si les parents comprennent les besoins de l'enfant, ils comprendront que les droits ne viennent que pour protéger les besoins de l'enfant. Et que il faut faire une distinction entre les besoins et les désirs de l'enfant. Nous sommes d'accord qu'il faut prendre en compte les désirs et les souhaits de l'enfant, mais tous les désirs de l'enfant ne doivent pas être pris en compte. Là, non. parce qu'il y a des désirs qui sont poussés par leur jeune âge. Mais finalement, tous les besoins de l'enfant doivent être pris en compte.
Voilà, on revient à vous, maître, bienvenue, Moké. On vous garde en ligne. Il y a d'autres compatriotes qui ont appelé parce qu'ils sont nombreux sur notre standard pour placer un mot par rapport à cette question, la situation de l'enfant dans votre milieu. Et vous, vous avez dit, le problème d'abord est même au niveau de la méconnaissance des instruments juridiques que nous avons évoqués dans cette émission. Ils ne sont pas assez connus, voire même au niveau des fonctionnaires de l'État, que ce soit des parents, que ce soit des ONG, que ce soit même des juristes, beaucoup. Il y a encore ces instruments juridiques. Il faut d'abord avoir la volonté de se mettre au travail pour vulgariser ces instruments. Et c'est de cette façon qu'on peut aller petit à petit jusqu'en prendre en compte la globalité de cette question de droit de l'enfant. On vous garde en ligne. Hein. Nous avons Kevin qui est en Bandaka et Jacques à Bukavu. 081-890-6315, notre numéro d'appel pour intervenir en direct.
Chaque jour, la fréquence de la TU le courant avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Tapi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Tapi.
Parole aux auditeurs, Pierrot et Amis.
Kevin, vous êtes en Bandaka. Bonjour Kevin.
Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs des radios Capi.
Et notre souci aujourd'hui, c'est de voir dans notre milieu, dans notre communauté, de quelle manière cette question de droit de l'enfant et de la protection de l'enfant est-elle abordée aujourd'hui? Quelle est la situation à Mandaka?
La situation à Mandaka semble vraiment évoluer. Ça semble évoluer étant donné que nous sentons vraiment dans le chef de l'État, dans le chef du gouvernement congolais, une volonté de mettre en place le tribunal pour enfants dans le cadre de l'application de la loi portant protection de l'enfant de 2009, je crois. Et on assiste à des conférences, on assiste à des séminaires s'agissant de la protection de l'enfant tenue par le président du tribunal pour enfants ici à Mbandaka. Mais plusieurs défis restent à relever, étant donné que depuis plusieurs moments, on ne savait pas de quoi s'agit-il de la protection de l'enfant. Depuis que la RDC a ratifié plusieurs instruments internationaux, nous n'avons pas vraiment senti cette volonté-là de protéger les droits de l'enfant. Mais actuellement, on peut dire qu'il y a des améliorations, bien que plusieurs choses restent à faire. Des améliorations notamment sur le plan juridique, je pense, parce que la loi portant protection de l'enfant, dans son article, je crois, 94 ou 95, ça prévoit déjà ce qu'on appelle la présomption irréfragable d'irresponsabilité dans le chef de l'enfant. C'est-à-dire que ça tient compte de l'âge de l'enfant, ça tient compte de la capacité perceptible du niveau de raisonnement de l'enfant. C'est-à-dire que le législateur a tenu compte de la façon dont l'enfant peut raisonner à un certain âge. Parce qu'on ne doit pas concevoir qu'un enfant de 12 ans, 13 ans, commettre une infraction et le mettre en prison seulement comme ça, soit de le rendre pénalement responsable. Et cette loi-là de 2009 a tenu compte de ça. C'est-à-dire que l'enfant bénéficie d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité. Ça veut dire que même si un enfant commettait une infraction, le législateur l'a rendu irresponsable et cela permet à ce que l'enfant puisse bien épanouir dans la société. Bon, bien que c'est une irresponsabilité, mais l'État prévoit, en fait, la loi prévoit quand même des modalités de répression sur le plan civil.
Mais Kevin, dans votre intervention, vous êtes resté un peu plus aussi dans les juridiques. Pensez-vous que la question des droits de l'enfant aujourd'hui, la question du développement de l'enfant, peut-elle seulement être abordée sur le plan juridique où il y a aussi la considération sociale qui doit être prise en compte dans les analyses qui touchent à l'aspect de l'enfant?
Je poursuivais parce que là c'était au niveau sur le plan juridique, mais sur le plan social, donc en fait sur plusieurs plans qui restent, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, j'avais dit à l'introduction, s'agissant par exemple de l'épanouissement de l'enfant. L'enfant doit être épanoui parce qu'il n'est pas appelé de rester enfant. Il doit grandir et c'est là ça demande aussi qu'il puisse grandir dans des bonnes conditions. Cela nous laisse la brèche à parler sur, par exemple, l'éducation de l'enfant. Aujourd'hui, il y a déjà plusieurs années, on nous parle de la gratuité de l'école, la scolarisation de l'enfant. Ça, ce sont des discours, ce sont aussi des textes, par exemple, qui les prévoient. Mais en réalité, concrètement, dans la vie sociale de l'enfant, on ne constate pas cela, on ne le remarque pas. On parle de la gratuité, mais sur le lieu, sur place, on constate qu'il y a des frais qui sont exigés. On dit que les frais scolaires ne seront pas payés, mais concrètement, on exige des frais scolaires aux enfants, on exige même des contributions des parents. C'est au-delà de la gratuité. C'est ce qui fait un peu que, sur le plan social, sur le plan de l'épanouissement de l'enfant, il reste vraiment
à fournir. Merci beaucoup, Kevin. Au-delà de la considération juridique qui a fait quand même évoluer beaucoup de choses aujourd'hui, on voit avec l'installation de tribunaux pour enfants à travers le pays, mais vous estimez qu'au-delà de tout ça, il faut la considération sociale est importante par rapport à l'accès à l'éducation, cette question de la gratuité, on en parle presque tout le temps dans notre émission quand ça touche à l'éducation, à la vie de l'enfant. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Mbandaka. Jacques, vous êtes à Bukavu dans le sud Kivu. Bonjour Jacques.
Bonjour à tous, Capi. Bonjour à mes
Et quand on regarde le sud Kivu, Jacques, c'est, les provinces de l'Est ont connu beaucoup de difficultés avec des affrontements, avec des guerres, ce qui a rendu aussi les enfants très vulnérables dans beaucoup de localités, même dans la ville. Alors, quels sont les efforts qui ont été fournis aujourd'hui au niveau de la société pour prendre un peu cette question de l'enfant, de son encadrement et de son épanouissement à Bukavu particulièrement, Jacques?
Et les mots que j'ai à placer est qu'aujourd'hui, à RDC, en général, seul enfant qui riche a droit aux études. Ce droit universellement reconnu à tous et respecté par plusieurs pays pauvres par rapport aux nôtres. Je trouve que c'est scandaleux. Et nous devons en être sûrs, les frustrations que cela provoque ne manqueront pas de produire des effets un jour. C'est comme cela que des révolutions ont été déclenchées, telles qu'on en parle dans l'histoire.
Merci. Merci beaucoup, Jacques. Et nous allons revenir à vous directement, Mehmet, bienvenue Montier. Et quand on regarde l'article 6 de la loi pour autant protection de l'enfant, l'article dit ceci, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation primordiale dans toutes les décisions et mesures prises à son égard. Vous l'avez dit dans votre réflexion sur notre page Facebook, ça ne reste que des écrits noirs sur un papier blanc, mais est-ce que la définition même de toutes les stratégies, que ce soit au niveau des ONG, que ce soit au niveau des politiques, est-ce qu'on a tendance à recourir à cet article qui place au centre de toute chose l'intérêt supérieur de l'enfant, maître bienvenu Moké? Maître bienvenu, vous êtes avec nous? Dommage qu'on a perdu notre maître bienvenu qu'on va récupérer d'un moment à l'autre. Plusieurs messages sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Maître Joël de Kinshasa, la situation de l'enfant congolais à Kinshasa et partout à RDC reste préoccupante et alarmante. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant impose aux États parties l'obligation d'envisager les sanctions autres que l'emprisonnement toutes les fois que les mères porteuses des enfants sont poursuivies et qu'en cas d'emprisonnement ou d'incarcération, détention, des mesures doivent être prises pour que les enfants ne soient pas incarcérés avec leur mère. Et c'est dans le but du bien-être de l'enfant. Allez dans nos prisons, vous allez constater. Toujours pour le bien-être de l'enfant, la Constitution prévoit la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics, et cela depuis 2006 jusqu'à ce jour. On ne veut pas accorder à l'enfant ses droits, et voyez combien d'enfants non scolarisés ou chassés de l'école. La loi portant protection de l'enfant punit la non-scolarisation d'enfants en âge scolaire. Pourtant, les parents auteurs restent impunis. Ça, c'est comme le disait Maître Bienvenu tout à l'heure, de pouvoir faire les liens entre les instruments juridiques ainsi que leur concrétisation sur terrain, toutes les questions, toutes les priorités qui sont tous les privilèges de l'enfant dans les instruments juridiques pour que l'enfant puisse jouir de cela. Maître Brian, vous nous avez appelé, je crois bien, de Kananga au Kasaï Central. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour à tous les amis auditeurs.
Et comme Maître Bienvenu le disait tout à l'heure, que les lois, ce sont des écrits noirs sur un papier blanc, il reste à concrétiser cela. Et quand vous regardez la situation de l'enfant dans la province du Kasaï central, y a-t-il aujourd'hui, l'enfant est-il considéré comme une priorité? Parce que l'article 6 de la loi pour autant protection de l'enfant dit l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation majeure et au centre de toutes choses. Est-ce que vous avez cette intention que le gouvernement provincial, les ONG, les familles, les communautés travaillent pour mettre au centre de leurs préoccupations l'intérêt supérieur de l'enfant?
Oui, merci beaucoup, Pierrot, de la parole que vous m'accordez. Il faut d'abord dire qu'il y a une lutte intéressante par rapport à la condition ou à la situation de l'enfant au niveau de la province du Cap central, et surtout depuis l'avènement de la police de protection pour l'enfant. De ce côté-là, nous nous félicitons parce que nous voyons qu'il y a un effort fourni pour valoriser un peu l'enfant. C'est vrai que beaucoup reste à faire. Maintenant, par rapport à la préoccupation majeure pour cet enfant, par rapport au pouvoir public, je dirais que non. Donc, aucune attention particulière n'est accordée pour cet enfant-là. Il n'y a que les activistes des droits de l'homme qui se battent gauche à droite pour essayer un peu de faire respecter les droits des enfants, et avec aussi la campagne de sensibilisation dans des ménages, dans des églises, dans des écoles, pour essayer de faire voir d'abord à l'enfant que l'enfant a droit à se considérer comme un être humain au même titre que le majeur, et aussi faire voir à l'enfant ses droits et devoirs, ce que l'enfant peut réclamer vis-à-vis de ses parents, et ce que l'enfant doit aussi faire pour ses parents. Deuxièmement, il y a aussi une situation que tout le monde a essayé de déplorer ici, c'est par rapport à la situation des élèves. Vous allez prendre compte que en ce moment précis, il y a même les enfants de maternelle et de primaire qui continuent toujours à aller à l'école pendant que leurs grands frères des humanités sont déjà au repos. C'est comme ça que certaines personnes pourraient, si on pouvait adapter un scolaire pour essayer de garantir les enfants, et surtout pendant cette période compliquée, là où les enfants font l'objet des vols et puis des soustractions, c'est comme ça que certaines structures demandaient qu'on puisse adapter cette situation-là. Et aussi, troisièmement, c'est au niveau maintenant des parents. Apparemment, il y a certains parents qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'un enfant et qu'est-ce qu'il faut faire pour le droit de cet enfant-là. C'est comme ça qu'avec la campagne dont je venais de vous dire tout à l'heure, on est en train de sensibiliser les uns et les autres pour faire comprendre que le parent doit vraiment prendre la charge de leurs enfants. Il ne faut pas regarder premièrement les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics viennent en appui, mais c'est la tâche d'abord des parents, même si les pouvoirs publics, cela ne lui dit absolument rien. Mais nous allons essayer toujours de faire comprendre les pouvoirs publics de s'intéresser aussi à la situation de l'enfant.
Merci.
Pour terminer,
allez-y rapidement, oui.
La police spéciale de la protection de l'enfant, parce que cette police-là joue un rôle très important, et nous demandons qu'on puisse être vraiment aussi encadrer les OPJ, les responsables, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que le droit de l'enfant, parce que j'avais assisté à une situation que j'ai failli pleurer, et heureusement que les responsables ont trouvé la solution. Un enfant qui était abandonné par son parent, mais lorsque l'enfant a porté plainte par le biais de sa maman, il y a eu une solution qui a été trouvée et le parent a accepté de récupérer l'enfant, mais on a gardé le parent pour manque de demande, et pourtant la situation était déjà trouvée jusqu'à telle enfin que le papa s'est rebellé pour dire comme ça, je peux rester au cachot. On voit maintenant comment est-ce que l'enfant sera supporté. Donc,
Là, la question, maître Adrien, c'est le renforcement des capacités des OPJ, de tous ceux qui s'occupent de la question de l'enfant. La question de le renforcement des capacités de ceux-là qui s'occupent de la question de l'enfant. Mais vous avez quand même dit qu'au Cassine Central, avec l'avènement de la police spéciale pour la protection de l'enfant, ça a quand même contribué à pouvoir améliorer le travail de la protection de l'enfant. Mais vous auriez souhaité, comme beaucoup d'autres compatriotes, que le calendrier scolaire soit adapté, surtout dans les provinces qui connaissent déjà la saison sèche. Il y a des tout petits qui continuent à aller à l'école alors que ceux du secondaire sont déjà à la maison. C'est un problème, ça dépend du climat, mais aussi un problème de sécurité pour le petit enfant. Merci beaucoup, maître Adrien. Bienvenue, Dieu merci, vous, vous êtes à Kisangani. On va revenir à notre invité juste après. Dieu merci de Kisangani. Bonjour, Dieu merci. Dieu merci, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour à la radio Capi, bonjour à tous les auditeurs ainsi qu'à notre invité.
Oui, Dieu merci, vous êtes à Kisangani. Avant qu'on revienne à notre invité que nous avons pu retrouver, alors Kisangani c'est aussi une ville qui a connu beaucoup d'affres de la guerre, hein, comme on l'a pu même appeler la ville martyre. Alors chaque fois quand des villes, des villages, des localités connaissent la situation de guerre, ce sont les enfants qui sont plus victimes et ces enfants restent avec des séquelles autant d'années parce qu'il y en a qui ont perdu les parents. Et y a-t-il aujourd'hui une attention particulière en ce qui concerne la situation de l'enfant à Kisangani?
Oui, monsieur le journaliste, avant de répondre à votre question, je vais commencer par cet adage qui dit « Lorsque nous voulons améliorer la vie des autres, ça comprendre principalement leurs points de vue, on fait plus que du mal que du bien. Mm-hmm. » C'est le cas avec le gouvernement. Quand il dit « Tous les enfants à l'école », allez regarder, il n'y a pas d'école sur le terrain. Quand on dit « Tous les enfants sont égaux », alors que l'égalité sociale, ça n'existe nulle part au monde. Mm-hmm. Moi, comme expert à santé publique, on se pose la question où est-ce qu'on doit protéger les enfants. Moi, je pense que c'est à l'école que les enfants passent la moitié de leur vie à l'école. Mais moi, j'ai été dans certaines écoles, mais il n'existe aucun programme d'hygiène et sécurité en milieu scolaire. Mais quelle protection qu'on doit protéger les enfants? Parce que la santé publique est ce type de gens vulnérables. Et quand on parle des gens vulnérables, on voit les enfants et le vieux. Mais où est-ce qu'on va protéger réellement les enfants vraiment? Voilà un peu ma préoccupation. Moi, je pense que la situation de protection de l'enfant au Congo laisse à désirer vraiment.
Ça laisse à désirer. C'est pour là que nous souhaitons que tout le monde puisse s'en occuper. Nous allons revenir tout à l'heure à notre invité qui est avec nous, maître bienvenue, Moké, 081-890-1315.
Chaque jour, la fréquence de la TI le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capé en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capé.
Maître, bienvenue, vous avez perdu un moment, à l'autre vous êtes revenu. Alors, les éducateurs sont revenus sur cette question de la traduction de la volonté qui est exprimée dans les textes juridiques et la réalité sur terrain. Et cette question que vous avez posée quand nous vous avons perdu, c'est autour de l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être une préoccupation primordiale dans toutes les décisions et mesures qui sont prises à son égard, que ce soit au niveau du pouvoir public, au niveau de la communauté, c'est l'article 6 de la loi. Est-ce que vous avez cette impression que, même si vous l'avez dit, que beaucoup de gens ignorent encore les contenus de ces instruments juridiques, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'enfant est au centre des préoccupations et des décisions qui sont prises aujourd'hui, maître, bienvenue?
Merci pour la question. J'aimerais d'abord, avant de répondre à votre question, féliciter tous les auditeurs qui sont en train d'appeler pour l'intérêt qu'ils accordent à l'enfant et aux droits de l'enfant. Et j'aimerais particulièrement féliciter Adrien parce qu'il a traduit cet intérêt en acte. Il faut commencer par le faible moyen qu'on a, essayer de faire quelque chose pour l'avancement des délais. Et pour répondre à votre question, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est déjà une notion au début, au niveau international, qui est une notion un peu confuse, mais une notion qui protège les droits de l'enfant. En lisant l'article 6, vous allez comprendre que cet intérêt supérieur de l'enfant ne concerne pas seulement les institutions, mais ça doit être dans toutes les décisions et mesures prises à son égard, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau judiciaire, que ce soit même au niveau social. Là, nous allons féliciter, parce que je suis un praticien des droits dans les tribunaux pour enfants, il y a un élan très avancé de prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au niveau des non-jugements qui sont rendus par les tribunaux pour enfants. Mais maintenant, même temps, par rapport à l'exécutif, nous dirons que jusque-là, la majeure des décisions prises par l'exécutif ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. si nous ne le disons pas explicitement, même implicitement, il y a de ces lois, il y a de ces mesures, il y a de ces arrêtés, que quand vous disiez, vous ne sentez pas que l'autorité qui devait prendre cette mesure a eu à se référer à l'intérêt supérieur de l'enfant dans sa mesure.
Mais quand on
a est bien expliqué à l'article 6, le dernier alinéa dit ceci, sont pris en considération avec les besoins moraux, affectifs, physiques de l'enfant, son âge, son état de santé, son milieu familial, des différents aspects relatifs à sa situation. Et vous venez de vous dire, il y a un problème sérieux par rapport aux besoins. Les parents, les administrateurs, les officiels ne connaissent pas les besoins de l'enfant. Il faut commencer par là. Il faut déterminer quel est le besoin de l'enfant au niveau moral, affectif et physique pour tel âge ou pour tel état de santé, pour telle situation familiale, pour telle autre situation. Là où tout le monde aura connaissance que quand il a en face d'un tel enfant qui a tel besoin, il faut agir de telle façon.
Mais quand
un enfant, c'est une notion qui protège les enfants. Je vais peut-être vous donner un exemple aujourd'hui, parce que l'intérêt supérieur de l'enfant vient quand il y a la guerre entre plusieurs intérêts. Je donne une situation, un exemple d'une situation de divorce, où la mère dit que je veux avoir l'enfant, le père dit que je veux aussi avoir l'enfant. Ce sont les intérêts des adultes, ils vont donner leurs justifications. Mais le juge de l'enfant ne va décider que par rapport à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Mais quand on regarde aujourd'hui l'intervention du pouvoir public dans cette question de l'encadrement des enfants, il y a un problème sérieux avec la multitude, les enfants qui sont aujourd'hui trop nombreux dans les rues. Il n'y a pas assez des structures d'encadrement qui soient supportées par le pouvoir public aujourd'hui pour faire face à cette question de ces enfants qui sont dans la rue. Il y a des ONG qui se battent tant mieux que mal, mais la situation, ça empire, si on peut le dire ainsi. Je me rappelle, il y a 2 ans, les RGR avaient fait un rapport où ils dénonçaient le fait que l'autre phénomène auquel on fait face aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont eux-mêmes nés au niveau dans la rue, si on peut dire ainsi. C'est-à-dire que les adultes, les enfants qui sont partis dans la rue, qui ont fini par cohabiter là-bas et qui continuent aussi à procréer dans la rue, c'est une question qui est très importante. Mais alors, comment on pourra aujourd'hui concilier tout cela avec ces faits réels des sociétés qui se posent aujourd'hui dans la République démocratique du Congo?
Vous savez, monsieur le journaliste, il y a un problème sérieux, comme vous venez de le dire, par rapport surtout aux enfants qui vivent dans la rue. L'intérêt supérieur de l'enfant n'est autre que la prise en considération des besoins de ces enfants-là. La première des choses, d'abord, c'est de ne pas criminaliser ces enfants. La plupart des cas, quand vous êtes avec un officiel, quand vous êtes des fois avec nos services de sécurité, ils prennent ces enfants comme déjà des voleurs et des bandits, des voyous. Alors moi, personnellement, j'ai eu l'occasion, et j'ai chaque fois l'occasion d'être avec ces enfants, de discuter avec eux, de manger avec eux, d'être ensemble avec eux. Ce sont d'abord des enfants. Et qui se retrouvent dans une situation XY. Les ONG, nous nous battons tant que mal pour faire en sorte que cette situation puisse avoir une solution. Mais nous n'avons pas de moyens conséquents. Et souvent,
Et là, on a perdu, je crois bien, Maître Bienvenue. Nous allons rester ici à Kinshasa avec Maître Joël, laissant qu'on récupère la ligne de notre invité. Maître Joël, vous êtes avec nous?
Avec vous, bonjour.
Voilà, et vous avez aussi fait cette réflexion sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Vous estimez que la situation reste très préoccupante, mais quand vous évoquez la question de la scolarisation de l'enfant, c'est une question très importante qui est aussi prévue dans notre constitution autour de la gratuité, et beaucoup de gens sont très inquiets autour de cette gratuité, parce que si l'enfant n'est pas scolarisé, c'est un grand problème pour la société. Mais alors, de quelle manière on peut aujourd'hui s'en sortir pour régler cette question, Maître Joël?
Oui, l'État doit prendre toutes les mesures pour mettre en application cette disposition de la Constitution qui vise non seulement la gratuité, mais aussi l'obligation de faire scolariser tout enfant en âge scolaire, parce que c'est un principe constitutionnel qui vise non seulement le bien-être de l'enfant, mais aussi sa protection. Vous allez constater que l'enfant qui est à l'école sera exposé à moins de risques ou à moins de manipulations par rapport à cet enfant-là qui est exposé dans la rue toutes les journées.
Mmh. Mais ici, vous avez évoqué cette question de la punition de parents qui sont qui se rendent coupables de la maltraitance, de l'abandon des enfants ou soit de ces marques de scolarisation. Et l'aspect qu'on a, c'est que la plupart des cas, on accuse les parents, on accuse les enfants qui sont déjà dans la rue, mais dans moins des cas, on voit les parents qui sont soit poursuivis pour s'être rendus coupables d'abandon de ses enfants. Mais plus, on incrimine les enfants alors qu'ils ne sont que des victimes.
Oui, c'est le principe qui pose l'obligation de scolariser tout enfant en âge scolaire a été rendu possible par la loi de 2009 sur la protection de l'enfant qui sanctionne tout parent qui ne veut pas scolariser un enfant dont il a la charge alors que l'enfant est en âge scolaire. Mais depuis qu'on a promulgué la loi en 2009 jusqu'à là, à ma connaissance, je n'ai jamais vu ou entendu parler d'un parent qui a été sanctionné pour n'avoir pas scolarisé son enfant alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas scolarisés alors qu'ils ont des parents vivants qui savent aussi qu'ils ont l'obligation de scolariser leurs enfants alors qu'ils ne le font pas et l'État ne sanctionne pas. Le ministère public qui a la charge de veiller sur l'application de la loi alors que la loi est en sortie des dispositions pénales ne fait n'aménage aucun effort pour que les parents auteurs de cette infraction soient punis et sanctionnés.
Merci beaucoup Maître Joël. D'ailleurs, parce que vous avez évoqué cette responsabilité des parents et l'obligation de faire scolariser les enfants, sinon la loi punit. Il y a Junior Massimango qui nous a révélé sur la page Facebook en réagissant, c'est que vous dites lui, il estime que tellement que les fonctionnaires sont payés en monnaie des singes, les parents sont devenus irresponsables, on peut le dire ainsi. Ils travaillent beaucoup, mais ils ne sont pas assez rémunérés. Comment voulez-vous que ces parents puissent répondre à cette obligation de pouvoir scolariser les enfants? C'est ainsi que nombreux, parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir encadrer ses enfants, il les chasse de la maison, les enfants se retrouvent dans la rue, au marché, et lui, il pose ses problèmes de l'obligation, mais aussi des moyens qui doivent permettre aux parents de prendre en charge les enfants. Maître Olivier, vous êtes à Bandundu-Ville. Bonjour, Maître Olivier.
Le journaliste, c'est Maître Olivier de Badolité.
Quand vous êtes à Badolité, alors vous avez suivi les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on considère la question qu'elle est d'abord juridique, c'est qu'il faut maîtriser les instruments juridiques qui font la promotion de la protection des droits de l'enfant, c'est un fait. Mais il y a aussi cette question des enfants qui a un problème des sociétés, un problème de gestion des communautés qui se posent. Alors, de deux manières, comment, par exemple, à Badolité, on se débrouille pour pouvoir résoudre toutes ces questions qui touchent aux droits de l'enfant, Maître Olivier?
Oui, bon, en fait, je dirais que il n'y a pas tellement du problème du point de vue juridique, puisque nous avons tellement des cadres juridiques protégeant le droit de l'enfant, notamment la Charte des Nations Unies, la loi protection de l'enfant, voire même la Constitution. Mais vu toutes ces provisions juridiques à la matière, nous constatons souvent que le droit de l'enfant est violé. Les enfants congolais en particulier sont abandonnés à leur successeur. Alors ce qui est à déplorer, puisque vous allez voir que les enfants s'étrenaillent dans la rue, ils font des travaux trop durs, ils vendent de l'eau, ainsi de suite, c'est pas bon. Alors, du point de vue juridique, bien sûr, il y a eu certaines avancées, mais il reste encore certaines choses à relever, notamment l'emprisonnement des enfants. Vous allez voir qu'ici, à Badolité, nous constatons souvent parfois que les enfants sont mélangés avec des adultes, alors ce n'est pas bon pour la protection de l'enfant. Et aussi, il n'y a pas tellement la création de centres d'encadrement pour l'éducation vraiment des enfants qui sont qualifiés de récidivistes. Alors, ce n'est pas bon. Alors, du point de vue social et culturel, alors, vous allez sentir ici, nous constatons encore qu'il y a beaucoup de récits. Quand on regarde l'article 41 de la Constitution, alinéa 5, qui parle de devoir de parents de prendre soin de leurs enfants, et aussi alinéa 6, qui parle notamment de l'obligation du pouvoir public d'assurer une protection de l'enfant, vous allez voir que tous deux, et le parent,
peu l'État commence à se décharger. En disant le parent dit c'est pas de ma faute puisque moi je vis dans une situation de pauvreté, je suis le parent aussi alerte, tout commence à perdre leur sens des responsabilités. Et de la part de l'État aussi, l'État commence à chercher aussi à se couvrir pour dire que non, bon, il y a trop de charges et ainsi de suite. Alors, ce qui est à constater dans tout ça, quant à mon avis, je souhaiterais mieux que l'État, le parent congolais d'abord, puisse prendre ses responsabilités en main, d'utiliser plus le principe de self-help, qui veut dire compter d'abord, avant tout, sur ses propres moyens pour permettre le panissement de l'intérêt majeur des enfants. Et aussi à l'État, j'encouragerais plus à l'État de voter un budget permettant de la prise en charge à l'éducation de l'enfant tel que cela est tellement prévu à l'article 43, linéaire 3 de la Constitution qui parle de la gratuité de l'enseignement primaire. En encourageant la gratuité de l'enseignement primaire dans son entendement, ça pourrait aussi permettre à ce que nous puissions respecter les droits de l'enfant. Voilà, juste quelques lignes, ma contribution.
Merci, Maître Olivier, mais vous avez dit le problème aujourd'hui, la RDC ne se pose pas en termes d'instruments juridiques parce qu'il y a beaucoup d'instruments, quitte à les mettre en pratique. C'est pourquoi Maître Olivier, bienvenue, moi qui est notre invité, insistait beaucoup sur la vulgarisation de ces textes juridiques qui ne sont pas assez connus, hein, de beaucoup de personnes, mais l'ensemble des mesures, que ce soit la mise en l'application de textes juridiques, mais aussi le plan social de projet de développement, toutes ces questions prises en compte, ça peut conduire à l'amélioration de la situation des enfants congolais. Clément, vous êtes en Bujimaï, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à la
radio-capille. J'ai aimé tout à l'heure ce que Maître Olivier venait de dire, que le problème de l'enfant, c'est la responsabilité de tout le monde, l'État, les parents, la communauté. Mais quand on regarde aujourd'hui dans ces débats, chaque fois que notamment ces débats, tout à l'heure, notre ami qui est sur la page Facebook venait d'évoquer pour dire, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que les parents fassent dès lors qu'ils sont mal payés. Mais d'un côté, j'ai lu encore sur la page Facebook quelqu'un qui disait, mais écoutez, quand un parent décide de pouvoir mettre au monde un enfant, il doit assumer ses responsabilités. Alors, c'est pourquoi Olivier disait, mais on ne va pas continuer à se jeter la balle, mais chacun prend ses responsabilités. Pensez-vous aujourd'hui que dans la province du Kassai-Oriental, chacun prend ses responsabilités en ce qui concerne cette question de l'enfant aujourd'hui, Clément?
C'est une question très capitale et une préoccupation majeure, monsieur le journaliste, comme vous allez le remarquer, parce que j'ai entendu depuis le début de l'émission. Donc, chacun cherche à se jeter de responsabilité, chacun cherche de tirer le droit de son côté. Mais ce qui est vrai, qu'on ne peut pas parler en termes de texte juridique, parce que le Congo est très calé en ce qui concerne les textes juridiques, et nous sommes suffisamment outillés, et les textes, nous en avons à gogo. Mais ce qui importe beaucoup plus, c'est la vulgarisation et la mise en application de ces textes que nous avons. Et non seulement la vulgarisation et la mise en pratique des textes que nous avons, mais aussi il y a la part de responsabilité. Chacun doit répondre de sa responsabilité. Parce que quand un parent met au monde un enfant, il doit s'assumer de la prise en charge de cet enfant. Quand vous regardez le texte garantissant la protection de l'enfant, le texte 09-01 de 2009, vous verrez que la loi garantit la protection administrative, sociale, judiciaire, éducationnelle, sanitaire, ainsi de suite. Mais quand vous le savez, c'est vraiment en train de faire, mais la mise en application. Mais ce qui est aussi vrai, que nous devons commencer d'abord en amont. En amont, cela veut dire que le père, c'est l'État, le gouvernement. Donc, il doit prendre en charge ses responsabilités parce qu'il engage. Il offre des emplois. Il organise l'État, il organise les provinces, il organise tout. Donc la grande responsabilité lui incombe. Mais non seulement la responsabilité lui incombe, oui, il y a aussi des textes qui régissent ces organisations. Et non seulement ces textes qui organisent les organisations, mais aussi prise en charge des parents de leurs enfants. Quand on met au monde un enfant, il faudrait que l'on mette en application donc tout le nécessaire pour garantir sa sécurité, bien que les textes viennent compléter cette prise en charge, bien que les organisations internationales viennent compléter ce que nous sommes en train de faire. Mais ce qui est vrai sur le plan pratique, sur le plan juridique, ici à Mbujimayi, la prise en charge, et puis surtout avec la nouvelle loi pour la protection de l'enfant et l'instauration du tribunal pour enfants ici à Mbujimayi, nous sentons seulement qu'il y a du calme dans d'autres domaines.
il y a encore beaucoup, et alors beaucoup à faire.
Mais Clément, si on peut retenir pour quelques secondes, vous avez évoqué la responsabilité des parents. Quand on met au monde un enfant, il faudrait s'en occuper. Mais tout à l'heure, j'ai demandé à notre invité la situation de Kinshasa, où il y a eu plusieurs rapports des ONG qui estiment que le danger, pour le moment, c'est pas les enfants qui sont venus de leur famille, qui sont abandonnés dans la rue, mais c'est plus les enfants qui sont dans la rue et qui continuent à faire les autres enfants dans la rue. Et là, cette question des responsabilités devient très, très difficile, dès lors que ce sont les enfants qui ont voulu déjà dans la rue, qui continuent aujourd'hui à remplir la rue avec leur progéniture. Ça aussi, c'est une question, mais qui appelle aussi la responsabilité de l'État et des structures d'encadrement.
Bien sûr, c'est là que nous avons dit que la responsabilité est partagée, parce que le père de tout le monde, c'est l'État. C'est l'État congolais qui doit veiller à ça. Comme il y a déjà des textes qui régissent toutes ces matières, sur le plan administratif, sur le plan sanitaire, sur le plan judiciaire, sur le plan social. Donc il faudrait qu'il y ait la vulgarisation de ces textes, la mise en application de ces textes. Et ça c'est en amont. Maintenant, en aval, nous voyons maintenant les retombées de cette mise en application et de cette vulgarisation, ce qui va apporter en aval. Donc il faudrait que l'État prenne maintenant ses responsabilités, si les parents prennent en charge leurs enfants, et aussi il y a des enfants qui étaient déjà dans la rue, qui continuent à peupler la rue, que l'État maintenant s'applique pour chercher pour la paix.
Merci beaucoup Clément de Boujmaï, au Kassa Oriental. Smith, vous êtes à Goma, dans le Nord Kivu. Bonjour Smith. Smith, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, je suis avec vous. Bonjour, Radio Capitale.
Voilà, vous avez suivi les uns et les autres, comme on le disait tout à l'heure, que chaque fois qu'on fait les débats autour de cette question de l'enfant, chacun voudrait bien tirer le drap de son côté pour dire, voilà, c'est l'État qui paye mal. Bon, l'État dit, mais vous écoutez, les parents qui mettent au monde, qui ne veulent pas s'en occuper, mais la question, elle est vraiment transversale, on peut le dire ainsi. Mais alors, de quelle manière on peut l'appréhender pour pouvoir trouver des solutions concrètes autour de la question de l'enfant congolais et Asmi?
Bon, en fait, avant d'abord de répondre à votre question, monsieur le journaliste, j'aimerais d'abord rendre hommage ici à l'occasion de la Journée internationale des enfants africains à tous les enfants qui ont perdu leur vie dans les massacres de Soweto. Et je pense ici également à tous les enfants en situation difficile, et plus particulièrement les enfants dits de la rue, que nous appelons aussi chez nous communément le Maïbobo. Je veux un peu, avant de répondre aussi à la question, parler un peu de l'activité que nous organisons aujourd'hui pour la faveur de ces enfants. Ici à Goma, la ville est un peu agitée avec beaucoup d'interventions de plusieurs activités, ça et là, des organisations. D'une part, la division provinciale du genre qui organise avec l'appui de la MONUSCO la journée d'aujourd'hui au tribunal OMC. Et au Parlement d'enfants où je suis un accompagnateur, jusqu'à présent, nous organisons encore des activités un peu culturelles sur la journée d'aujourd'hui. Vous juste émettre un peu de message, parler sur ce qui est la situation de l'enfant avec les workshops et sur le numéro vert qui est disponible le 17 pour les interventions à propos des enfants en situation difficile. Donc, répondant directement à votre question, j'estime d'abord le comportement de tout le monde qui, tout acteur de défense et de protection des droits de l'enfant, qui chacun de son côté sur des droits pour montrer que celui qui fait le mieux, c'est la faute à l'autre. Dans cette situation ici, la faute est partagée et la réussite est également partagée. Comment je peux dire ça? Vous voyez un peu la situation des enfants d'ici, des enfants vivant dans la rue par exemple. Ce sont ceux-mêmes, il y a de ces enfants eux-mêmes qui quittent chez eux par le souci et le souci de liberté, ils préfèrent de partir très loin pour avoir une certaine libertinage. Et il y a même de ces enfants aussi qui quittent le toit conjugal, le toit de leurs parents, pour aller chercher. Bon, pour ça, ce sont les parents qui les chassent aussi. Il y a des cas comme ça. Et quant à ceux qui est par exemple du gouvernement congolais, le gouvernement congolais, bon, pour entrer des insuffisances dans beaucoup de domaines, hein. Je ne sais pas, Nous, étant que les associations de défense des droits des enfants, nous faisons quand même le mieux pour que la situation des enfants essaie quand même de changer. Mais c'est un peu confus, je suis un peu confus et fustige. Je ne sais pas vraiment donner à qui la faute et à qui la réussite. Mais tout le monde essaie de faire quelque chose de son côté. Le gouvernement est c'est le responsable de tout un État, c'est le responsable de la nation. Il a sa part de responsabilité. Qu'il fasse ce qu'il peut, bien qu'il y ait encore des anciens un peu minimes au niveau de l'amélioration d'abord des sociétés de tous les Congolais en général, cela affecte également les sociétés des enfants en particulier. Et il doit encore fournir des efforts parce qu'il a un grand appui des partenaires parce que nous, les associations et nous, les défenseurs des jeunes, des enfants, nous venons à l'appui aux actions aussi du gouvernement. Les partenaires qui viennent de l'étranger, la communauté internationale, avec des organisations qui nous appuient ici, ils nous viennent aussi à l'appui. La plus grande responsabilité d'abord revient à nous-mêmes, le peuple congolais, le gouvernement congolais. En premier lieu, je dirais d'abord aussi, il y a des parents qui sont responsables de ça. Mais pour le cas des enfants, peut-être qui n'ont pas de parents, qui ont été contrés par la loi de la nature à se retrouver par exemple à la rue, ça c'est la charge première du gouvernement.
Oui.
Et c'est à cela que le gouvernement trouve un peu beaucoup des insuffisances. Il y a même, nous, par exemple, nous, au niveau des associations, les maisons des encadrements d'enfants, aucune des associations des ONG ici avec nous, les démocratiques, dont je ne sais pas, vous direz très facilement qu'il reçoit une situation du gouvernement dans le sens d'encadrer les enfants, dans le sens de faire ceci. Si ce n'est pas les partenaires qui viennent de l'étranger pour nous aider à cela. C'est à cela aussi le gouvernement peut afficher une certaine volonté pour pouvoir venir en aide aux gens qui ont quand même des initiatives pour pouvoir les aider à améliorer quand même les sociétés de son peuple.
Merci beaucoup, Salif Degoma. Et c'est important ce que vous avez dit. C'est le temps n'est pas vraiment d'accuser, de s'accuser sur qui n'a pas agi en termes de ses responsabilités, mais il faudrait au moins voir ce que l'État doit faire, où ça ses limites, qu'est-ce que les parents, les ONG, mais ces questions doivent être abordées d'une manière globale. Omar, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Vous et la mèche du verbe, et bonjour à vous aussi.
Nous avons suivi les uns et les autres depuis le début de cette émission. Nombreux ont estimé que la question elle est abordée sur le plan juridique quant à la maîtrise des textes qui protègent l'enfant, mais c'est une question aussi sociale. Et au-delà de la définition aussi de la politique sociale, hein, pour permettre de faire face à la situation des enfants qui sont en difficulté. Votre point de vue, Omar.
Merci beaucoup, Pierrot Duverbe, comme je l'ai dit. Je tiens d'abord à préciser une chose qu'un des auditeurs a dit. L'enfant n'est pas totalement irresponsable. Il est totalement irresponsable lorsqu'il a moins de 14 ans. Dans les tels cas, même s'il commet un crime, on les libère. Mais lorsqu'il a 14 ans, entre 14 et 17 ans, il est pénalement responsable, mais ne subit pas la même punition qu'un adulte. C'est ça la question que je voulais faire. Je pense rapidement, Pierrot, que la protection de l'enfant, au regard des textes que beaucoup ont cités, apprécie à trois niveaux. D'abord, c'est au niveau social, ce qu'on appelle la protection sociale de l'enfant. À ce niveau, la loi voudrait que l'enfant puisse bénéficier des conditions de vie normales pour permettre son épanouissement physique, et intellectuel et mental. Mais on se pose la question, comme vous voudrez que l'émission soit socio-juridique. En ces jours, combien d'enfants vont à l'école au Congo? Est-ce que la gratuité de l'enseignement est respectée? Combien d'enfants ont accès aux soins de santé de qualité? Combien a-t-il accès à une intégrité physique et des écoles qui continuent à fouetter les enfants? Est-ce que les enfants congolais mangent normalement? Tous dorment à la maison. Du point de vue social, il y a des problèmes sérieux. Et moi, je pense, Pierrot, les textes existent, comme vous l'avez dit, c'est un manque de volonté politique. On est pris à faire des choses, mais on ne sait pas commencer par la priorité. Dans la vie, il ne faut pas confondre la priorité et l'accessoire. La priorité, c'est d'abord l'enfant qui constitue le demain. Du point de vue pénal, la protection pénale, la loi voudrait que l'enfant ne puisse pas être traité comme un adulte, aller à Matal et dans notre maison de détention. Mais nous vous rendons compte qu'on mélange et mineur et adulte, alors que la loi protège pénalement l'enfant. Et la loi dit ceci, un OPJ ne peut pas arrêter un enfant qui a moins de 14 ans. Mais moi, j'ai à défendre plusieurs cas où des mineurs de moins de 14 ans ont été arrêtés. Il y a un problème de sensibilisation et de vulgarisation. Et aujourd'hui, du point de vue judiciaire, la loi voudrait aussi qu'il y ait des tribunaux pour enfants. L'enfant ne peut pas être jugé comme un adulte devant les tribunaux d'adultes. Combien des provinces ont des tribunaux pour enfants? Et ceux qui ont des tribunaux pour enfants, est-ce que les parents savent que leur enfant, lorsqu'il commet un crime, il doit être jugé? Il y a un problème sérieux, puis la magie et vulgarisation. Voilà pourquoi je citerai pour dire tout passe par la sensibilisation et la vulgarisation
okay. des lois qui existent. Voilà, merci. Oui, rapidement, Maître Omar, pour permettre à notre invité, Maître Bienvenu, moi qui ai de conclure cet échange.
Oui, je disais rapidement, il faut un minimum de volonté politique, les lois sont claires, ce n'est pas ce qui prévoit le texte, mais ce que doivent faire les acteurs. Il faut un minimum de volonté pour le faire.
Voilà, merci. Nous revenons à vous, Maître Bienvenu, Moki. On termine cet échange. Vous avez suivi les uns et les autres, d'ailleurs. Vous vous penchez sur ça hein, dans votre mémoire du troisième cycle que vous vous apprêtez à soutenir sur cette question de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. C'est vraiment dans votre domaine de recherche. Alors, dans l'avenir, comment les efforts peuvent être conjugués pour arriver vraiment concrètement à vivre l'amélioration de la situation de l'enfant en une minute pour conclure cet échange?
Merci. Je commencerai par écouter l'intérêt des uns des autres et de préciser que la situation de l'enfant en RDC, la responsabilité est partagée comme vient de dire le prédécesseur. Il ne faudrait pas qu'on puisse se dédire en disant que c'est l'État, pendant qu'il y a des parents qui violent les droits de l'enfant. Et vice-versa, y compris les ONG, et même, moi je préciserai, les enfants eux-mêmes, parce qu'ils sont des acteurs plus capital par rapport à l'avancement des droits de l'enfant. Alors, pour répondre à votre question, j'aimerais dire, sur le plan social, il faudrait que l'État puisse mettre des moyens pour que l'encadrement des parents, l'encadrement des structures de base et des structures définies par la loi portant protection de l'enfant puisse être effectivement en application. Sur le plan pénal, j'aimerais ici que les auditeurs l'État, bien sûr, qui nous écoute puisse comprendre. Les tribunaux pour enfants font beaucoup, beaucoup de efforts dans le cadre de vulgarisation, d'application, de veiller même sur le bien-être de l'enfant. Mais il y a un problème de compétences. On a limité les tribunaux pour enfants à la compétence des enfants en conflit avec la loi, bien sûr, avec d'autres compétences en matière civile. Mais il y a un problème de l'enfant victime.
Oui, réalisé rapidement, oui.
Alors, moi, je voudrais que nous puissions laisser au tribunal pour enfants la compétence et de l'enfant qui est en conflit avec la loi et de l'enfant victime. Que les adultes qui ont affaire avec les enfants répondent devant les tribunaux pour enfants. Ça, c'est une participation personnelle. Et je voudrais aussi, en matière de protection de l'enfant, il faut qu'il y ait vraiment une synergie efficace. L'État ne doit pas considérer les associations comme des ennemis de l'État.
Merci. Merci beaucoup, Maître Bienvenu Moké, président de l'Association pour la promotion et la défense des droits de l'enfant et de la famille. Vous êtes aussi doctorant en droit de l'Université de Kinshasa. Merci de nous avoir accordé votre temps dans cet échange de parole aux auditeurs. Merci à tous les autres auditeurs. Vous avez été nombreux, ainsi qu'à l'équipe de production des paroles aux auditeurs. Jean-Noël Mokondo était à la mise en monde. Julie Fezabongonda à la gestion du standard. Jérôme Ngambo était à la réalisation et coordination. Et Pierrot et la Mèche vous a présenté ce magazine sous la supervision de Martin Sebujango et fidèles auditeurs. On retrouve parole aux auditeurs sur www.radiotapi.net. Au revoir.